mais là, pour ne pas avoir le soleil. Nous allons, cette année-ci, au point de vue philosophique, essayer de mieux comprendre ce qu'est la personne. Il y a tout un mouvement qui s'est produit en philosophie depuis saint Thomas, depuis Aristote. On s'est intéressé énormément au problème de la personne et de l'individu. On ne peut pas ne pas tenir compte de cela. On dit souvent que la théologie de saint Thomas est construite sur le point de vue de la nature. Et que progressivement, saint Thomas a introduit dans sa réflexion théologique le problème de la personne. Et il était obligé alors de se rabattre sur ce Boès, la fameuse définition de la personne de Boès, qui revient toujours. Or, la définition de Boès, Boès est avant tout un logicien des prédicaments. Boès, il n'est pas un métaphysicien. Et saint Thomas a respecté cette définition de Boès, il l'a changée, c'est sûr. Elle n'est pas tout à fait ce que Boès disait. Mais la réflexion philosophique s'est très développée sur la personne. Au cours des années, ce qui est normal du reste. Parce que l'Évangile regarde la personne. C'est la personne qui reçoit la grâce. C'est pas la nature. C'est la nature, mais la nature dans la personne. Et c'est tellement significatif que il y a les parrains et les marraines par rapport au petit enfant. Le petit enfant est incapable, il n'est pas encore une personne. Il est une personne métaphysiquement, mais sa personne n'est pas développée. Alors, la nature est là, puisqu'il est né comme un homme, il est né pour être un homme, et elle n'est pas développée du tout. Le développement de la nature humaine est la personne. Mais le point de départ de l'enfant, la personne, elle est présente, si vous voulez, métaphysiquement. Mais elle n'est pas développée. Et pour le baptême, il faut le concours de la personne avec la grâce de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a le parrain et la marraine. Ils répondent à la place de l'enfant. Ils répondent le consentement que l'enfant est incapable de donner. Et c'est nécessaire pour qu'il y ait baptême. Je ne peux pas baptiser. Enfin, la fameuse question, vous savez, la grand-mère qui est toujours là, lorsque les parents disent non, vaut mieux pas baptiser l'enfant, nous sommes pas. Hein. Et la grand-mère, elle en fait la grand-mère bretonne surtout, hein, fait baptiser l'enfant par derrière. Des choses qui sont arrivées, hein, c'est pas des blagues que j'invente. Et qu'ils n'aiment pas ça. Parce que les parents doivent être consentants. Vous voyez, ce qui montre bien que c'est la personne. L'Église ne regarde pas seulement la nature, la personne. La personne s'est très développée dans saint Thomas. J'avais toujours eu l'idée de montrer comment la théologie de saint Thomas est vraiment une théologie de la personne. Parce que la scolastique a surtout développé la nature. Et je crois qu'il y a tout un développement qui est très net sur la personne. De sorte que, en philosophie, si on repense une philosophie réaliste, une philosophie à partir de la réalité, quand on est en face de l'homme, de la nature humaine, on est obligé de regarder ce qu'est la personne. Ne pas seulement la regarder à un point de vue logique, mais la regarder au point de vue métaphysique. Et ça, je crois, très important. Qu'on puisse avoir une vue métaphysique de l'homme, de la personne humaine. La nature humaine est évidemment présente, mais il y a autre chose que la nature humaine. La nature, c'est quelque chose d'universel. Et la personne est toujours singulière. Vous ne pouvez pas penser la personne universelle. Il y a là quelque chose qui immédiatement nous oblige à repenser philosophiquement où situer la personne. Dois-je regarder la personne au niveau moral? Parce que je suis là tout de suite en présence du dominium. Est-ce que c'est suffisant? La personne, elle est morale et elle peut être artiste. Vous avez des personnes d'une honnêteté parfaite sans avoir aucun sens artistique. C'est embêtant. L'art, un artiste, est une manière très élégante de montrer ce que la nature humaine peut être. Je ne peux pas définir la personne uniquement au point de vue moral. On le verra au terme, les différents types de personnes qui se développent, ou un artiste. Un artiste, un type de personne humaine. Et l'honnêteté de quelqu'un dans le point de vue de la prudence, c'est une personne humaine. Il est bien évident que un homme prudent représente un type de personne différent de l'artiste. Est-ce que l'homme politique représente une personne? Je vous pose ce problème. Est-ce que l'homme politique, qui s'est donné entièrement à la politique, c'est un type particulier de personne qui n'est ni la prudence, ni l'artiste, qui est un petit peu des deux? La personne humaine est-elle le contemplatif ou est-elle l'homme actif? Donc la personne apparaît comme au-dessus de la philosophie pratique, puisque vous la retrouvez aussi bien artistique, aussi bien morale, personnelle, qu'aussi bien politique. Elle doit être regardée d'abord du point de vue métaphysique. Je crois personnellement, je dis ça parce que je n'ai pas vu, comme la métaphysique est très peu enseignée, on a laissé tomber la personne ou bien on la voit uniquement au point de vue psychologique. Et la personne au point de vue psychologique, je ne définis pas ce que la personne. Je définis des types de personnes. Mais c'est vrai que la personne implique une certaine psychologie, je suis tout à fait d'accord, mais la personne ne se ramène pas au point de vue psychologique. Vous avez un homme qui est colérique. Vous avez un homme qui est d'une patience angélique. On ne peut jamais le mettre en colère. C'est très agaçant d'avoir une personne qui... Jamais, quand même. Impossible. Devant les pires scandales, c'est comme ça. C'est comme ça. Ça ne peut pas être autrement, c'est comme ça. Mais vous ne pouvez pas définir la personne par le point de vue psychologique. Nous savons que ça fait partie de la personne, c'est sûr, ça fait partie. La personne est donc comme une petite synthèse. Et je crois qu'on est bien obligé de reconnaître ça. Quand j'étudie la métaphysique, j'ai toute la recherche de la substance. La personne est substantielle. Donc, je vois donc, première étude de la personne, la substance. Une personne est tout le temps substantielle. Elle a ce privilège de la substance. La personne implique l'acte. Elle est finalisée. Une personne qui n'est pas finalisée est embêtant. Enfin, ce n'est pas une personne. C'est un individu. Vous voyez, personne et individu. L'individu, tout simplement parce qu'il existe. Mais il lui manque la personnalité. Et vous avez tout de suite le mot « personnalité » qui est l'abstrait de la personne. Ce par quoi une personne est personne, c'est sa personnalité. Et sa personnalité met en lumière ce que doit être la personne. Quand vous réfléchissez sur la personne, vous dites « Ah, quelle grande personnalité !» Vous dites ça pour manifester qu'il y a en lui quelque chose de caractéristiques qui montrent bien ce qu'est sa personne. Donc, substance, mais quel est le rapport de la personne et de la substance? Quel est le rapport de la personne et de l'acte? Vous avez, après avoir étudié la substance, et l'acte en métaphysique, puis puisque ce sont les deux causes que vous recherchez, les deux causes de l'être. Vous avez la propriété de l'être. La personne n'est pas une propriété de l'être, puisque il peut exister des êtres qui existent et qui ne sont que dans le devenir. Ah, tiens, des êtres qui ne sont que dans le devenir, le crapaud, le petit bonnet, l'âne, qui n'est que dans le devenir. Alors, son unité n'est pas parfaite. Elle est l'unité pour un temps, pour un moment. Il va disparaître. L'un est propriété de l'être. Alors, la personne, elle n'est pas propriété de l'être. Je ne dirais pas que dès qu'il y a être, il y a personne. Non. Je ne peux pas dire ça. Alors, qu'est-ce qu'elle est ? Elle est, pour moi en tant que philosophe, elle est la réalisation la plus parfaite de l'être. C'est vrai, ce n'est pas un principe. Les principes, c'est substance et acte. Mais elle est la réalisation. Le principe n'est jamais une réalisation. Ce n'est pas un pos. Le mot grec, pos, le comment, donne la réalisation. La réalisation la plus parfaite de l'être. Je crois qu'on peut dire ça. Qu'on peut préciser que la personne, c'est pour moi homme, la réalisation la plus parfaite de l'être. Je n'ai rien au-dessus. Dieu est une personne. Ah. Alors, je touche quelque chose de très important. Parce que si j'étudie la personne comme réalisation la plus parfaite de l'être, je vais modifier ma recherche de Dieu. Est-ce que ce n'est pas à partir de la réalisation la plus parfaite que je serai le plus proche de Dieu, intellectuellement ? Je ne dis pas affectivement, mais intellectuellement. Si vraiment la personne est la réalisation la plus parfaite de l'être pour moi, c'est donc à partir de la personne que je pourrai regarder le problème de Dieu. Je serai en face de l'horizon. Quels sont les êtres qui existent, qui sont comme l'horizon de Dieu? L'horizon tout proche du soleil qui se lève. On aime, tous on a fait cette expérience, on aime de monter le plus haut qu'on peut, difficile sur l'Himalaya, Mais si on peut le faire, on le fait. Et c'est une petite gloire. Parce qu'il n'y a pas beaucoup parmi nous qui ont fait l'Himalaya. Je ne l'ai pas fait non plus. Mais j'ai vu des gens qui l'avaient fait. Et une fois qu'on est à l'Himalaya, on veut voir le lever du soleil. On voit mieux le lever du soleil de l'Himalaya que quand on est sur la plaine du Nord, la plaine de la Beauce, au Mont Blanc. On aime de voir le lever du soleil. C'est une image que je donne, une métaphore. Mais est-ce que ce ne serait pas comme ça pour la métaphysique? De voir le lever du soleil. Quel est le lever du soleil pour la métaphysique? Le lever de la lumière. Ah! La lumière. Notre père, maître, le père Jacques, fait sa thèse sur la lumière. Le lever du soleil. C'est lorsque j'affirme être premier. Alors, il y a là quelque chose que je crois très important. Les théologiens, il y a quelques années, j'étais à Fribourg, je savais que la tour Maubourg faisait une petite réunion de certains philosophes, des thomistes, il fallait qu'ils soient là. Alors il y avait aussi d'autres. Et puis ils se sont dit, loyalement, où pouvons-nous vraiment trouver les preuves de l'existence de Dieu. Alors, ils ont rejeté saint Thomas en disant, non, on a répété tout ça, mais aujourd'hui, ça n'a plus aucune prise. Et aujourd'hui, comme si la métaphysique était dépendante du temps. C'est sûr qu'aujourd'hui, il est plus difficile de faire de la métaphysique qu'au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, les hommes avaient en eux un réalisme qui était commun depuis que l'idéalisme a tout pris. Il est très difficile de redécouvrir l'existence de Dieu. On a les nouvelles découvertes, la valeur, mais ce n'est pas l'existence de Dieu. L'idéalisme se termine par la valeur. Husserl, les inédits d'Husserl qui sont à Louvain, et c'est paru dans la revue de Louvain, Husserl découvre l'existence de Dieu par la valeur suprême. Alors, cette table ronde a conclu qu'au fond, la preuve la plus parfaite de l'existence de Dieu, c'est celle de Kant. C'est que je réfléchis, je vois qu'il faut un premier point de vue moral. Ils ont rejeté toutes les preuves d'existence de Dieu. Il se sera bâti sur Kant. C'est très significatif, je prends ça comme un signe, que les voies de saint Thomas, bon, nous les regardons avec vénération, on les comprend, mais il faut bien voir, ça n'a plus grande prise sur les gens. Et on sera pas sûr, Kant, il est nécessaire qu'il existe en premier. Et c'est vrai, il est nécessaire qu'il existe en premier. Mais le premier, c'est le premier qui nous échappe. Je me demande si, comme le problème de la personne a pris une importance énorme au point de vue philosophique, il faut bien le voir, de fait. Nous ne devons pas chercher à situer d'abord le problème de la personne et au fond nous demander, puisque c'est auprès de la personne humaine qu'on a l'expérience la plus parfaite de ce qui est l'être. Le plus parfait que je considère, c'est la personne. Alors, est-ce que, en me situant philosophiquement du côté de la personne, ce ne sera pas beaucoup plus facile pour moi de voir le soleil qui se lève ? Symboliquement, voir le soleil qui se lève. Je crois. Et nous verrons, en voyant ce que c'est que la personne, je crois qu'en voyant ce qu'est la personne, on verra que la plus grande expérience que j'ai dans la personne, c'est à l'égard de l'ami. Et c'est peut-être par cette expérience-là que je peux le plus voir le soleil qui se lève dans l'expérience même de l'amitié. C'est l'expérience de l'amitié qui me donne l'expérience la plus parfaite de la personne humaine. Voilà mon ami. Mon ami, ce n'est pas la personne humaine. C'est pas la nature, je veux dire, c'est pas la nature. J'aime les hommes, je suis philanthrope, j'aime tous les hommes. J'aime la nature. Mais quand je regarde mon ami, je regarde tel type d'homme, je regarde la personne. C'est la personne que j'aime dans l'amour d'amitié. Est-ce que, au fond, toutes les preuves de l'existence de Dieu, selon saint Thomas, est-ce qu'elles ne se ramènent toutes, est-ce qu'elles ne se ramènent pas toutes à l'amitié ? Et j'en suis de plus en plus convaincu que c'est vraiment par l'amour d'amitié et l'expérience de l'amour d'amitié qui me fait découvrir ce qu'est la personne humaine. Je découvre la personne humaine objectivement la plus parfaite, le plus parfaitement chez mon ami. Mon ami, il est une personne pour moi. Et c'est auprès de lui et en lui. C'est pour ça que le problème de la personne aujourd'hui est capital au point de vue métaphysique. Je crois que c'est vraiment l'ultime problème métaphysique. La métaphysique se termine avec le problème de l'homme. Et je me pose la question, y a-t-il quelqu'un, une personne, au-delà de mon ami? Et Dieu, je le découvre comme la personne au-delà de mon ami. Voyez, je crois, nous aurons le temps de le voir, j'espère, mais je vous le dis dès le début pour vous montrer l'importance qu'il y a. Bien que c'est quand même le point de vue de l'intelligence et de l'amour vu dans sa profondeur métaphysique qui permet de poser l'existence de Dieu. Alors, on a fait une grave erreur, je crois, dans le thomisme. On a fait une grave erreur. On a cru qu'il y avait une preuve de l'existence de Dieu, une seconde preuve de l'existence de Dieu, une troisième preuve de l'existence de Dieu, une quatrième preuve de l'existence de Dieu, une cinquième preuve. Et on les a séparés, croyant que c'était cinq chemins. Moi-même, je l'ai affirmé et j'ai corrigé des thèses sur la prima via, sur la seconda via, sur la tertia via, quarta, quinta. Et l'histoire du thomisme, on peut dire qu'on trouve partout ce souci des cinq voies. En réfléchissant bien avec le problème de la personne, parce que c'est le problème de la personne qui modifie cela. Le problème de la personne n'est pas contre la nature, mais assume la nature. Je suis la nature humaine, une nature humaine individuée, particulière. Mais c'est pas ça qui est le principal pour moi. C'est dans la nature le point de vue de la personne. Le développement de l'intelligence et de la volonté. C'est ça qui fait la personne humaine au point de vue spéculatif et pratique. De sorte que la découverte de l'existence de Dieu, ce n'est pas cinq voies, c'est par une unique voie. Celle de la personne et de l'ami. C'est par l'amitié que je suis le plus proche de Dieu, intellectuellement, réellement, et que je suis dans la perspective la plus parfaite pour découvrir l'essence de Dieu. Vous voyez que le problème de la personne a une très grande conséquence. C'est qu'elle m'oblige de repenser les cinq voies dans l'unité. Les cinq voies me montrent cinq modalités de la personne. Et pour affirmer l'existence de Dieu, toutes les cinq sont présentes, mais c'est la cinquième, la finalité, qui apporte l'achèvement. La prima via, elle concluait à l'être immobile. Et l'être immobile, c'est pas Dieu. La seconda via, découvrez le point de vue de la vie. Mais c'est pas suffisant de dire que Dieu est le premier vivant. Ça, Hegel l'a dit. La tertia via aboutit à la nécessité dans l'être. Mais découvrir la nécessité dans leurs oreilles, c'est pas encore Dieu. Quand je repense vraiment aux cinq voies, je m'aperçois que chacune sont très intéressantes, mais qu'elles ne découvrent pas vraiment Dieu. Dieu est personnel. Dieu, c'est l'être parfait dans sa personne. Et je suis obligé de mettre les cinq ensemble pour aboutir à affirmer l'existence de Dieu. Et le problème de la personne est là pour faire la synthèse. La première synthèse en métaphysique, c'est la personne. Il n'y a pas de synthèse avant. Et c'est cette première synthèse qui va me permettre de redécouvrir. Ce n'est pas synthèse au sens rigoureux, c'est la première réalité la plus parfaite que j'expérimente, c'est la personne. Et cette réalité la plus parfaite que j'expérimente, la personne, me permet de découvrir un au-delà de la personne. Dieu, c'est l'au-delà de la personne humaine. Alors vous voyez que ce problème de la personne au plan métaphysique est capital, puisque ça me fait comprendre que les cinq voies sont une voie pour découvrir l'existence de Dieu. Je ne peux pas les séparer. Alors quand on faisait une thèse sur la prima via, on ne pouvait pas aboutir. Une thèse sur la seconda via, et j'avoue avoir corrigé des thèses prima via, seconda via, et je ne voyais pas que les cinq sont une. Et c'est justement parce qu'elles sont une que c'est la difficulté, mais l'unité métaphysique se fait autour de la personne. La première unité, c'est la personne. La seconde unité, c'est Dieu. Toute ma métaphysique, je la recherche pour comprendre ce qu'est l'homme. Toute ma métaphysique, c'est comprendre ce qu'est l'homme. C'est ça qui m'intéresse. Et puis, une fois que j'ai compris ce qu'est l'homme, je me pose la question, est-il l'être le plus parfait ? Est-ce que vraiment je peux considérer la personne humaine comme l'être le plus achevé? Non. Cet être est limité. Il est en acte, mais il est limité. Et donc, il exige de poser une personne absolue, plus grande que lui, plus parfaite que lui, une personne absolue qui est Dieu. Ah. Ce problème de la personne va donc être le point d'orgue de toute ma connaissance humaine de Dieu. Et c'est par la personne que le problème de Dieu se pose avec acuité et se pose le plus parfaitement possible. Vous voyez, la scolastique a oublié que saint Thomas donne les cinq voies dans une perspective critique, ce qui est nécessaire pour découvrir l'existence de Dieu. Et les cinq sont unis dans l'être. Et les cinq sont nécessaires pour comprendre le grand levier pour prouver l'existence de Dieu. Mais les cinq s'unissent dans la dernière, qui est la perspective de la cause finale. Seule la cause finale peut me permettre de poser l'existence de Dieu. La causalité formelle, la causalité matérielle, la causalité efficiente, non. Seule la causalité finale. Or, la personne me montre comment c'est la cause finale qui fait l'unité de mon être. La personne me montre le type d'unité qui existe. Tous ceux qui étudient la personne. Or, c'est le grand problème aujourd'hui. C'est vrai. Pourquoi ces philosophies contemporaines peuvent nous attirer, nous séduire, c'est à cause de la personne humaine qui est présente. Pourquoi Descartes a séduit si profondément beaucoup de Français? C'est parce que c'est la personne. Cogito. Voyez, je crois qu'on touche, en essayant d'étudier le problème de la personne, on touche ce qu'il y a d'intéressant dans toutes les recherches modernes. Et par le problème de la personne, on voit qu'on se met dans la situation la plus parfaite pour saisir l'existence de Dieu. Là, c'est la situation la plus parfaite. L'existence de Dieu, c'est très important pour moi. Toute ma philosophie se termine par la preuve de l'existence de Dieu.